Alors, tant qu'on est arrivé là, le temps des conclusions, et je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais juste faire quelques remarques et peut-être par la suite ouvrir la discussion si jamais il y avait des gens que je n'ai pas laissé parler dans la matinée ou qui ont envie de faire des remarques d'ordre un peu plus général. Donc, si vous regardez un peu l'ensemble de travail qu'on a fait aujourd'hui, donc bien sûr, on peut faire la reproche qu'il y a des régions du monde qu'on n'a pas beaucoup traitées. On n'a presque pas parlé d'un certain nombre même d'océans. On n'a pas parlé des îles dans le Pacifique. On n'a sûrement pas trop parlé de l'Amérique. Tout cela, c'est vrai, mais on a un jour et il faut quand même être un peu modeste dans ses ambitions dans ce cadre-là. Donc, du coup, on s'est concentré, en gros, je dirais, sur trois régions. Il y a eu une discussion où on est revenu sur des expériences différentes dans le cadre de la Méditerranée, des expériences qui étaient différentes parce que les îles en question étaient placées dans une situation différente et bien sûr aussi il y avait une question de l'époque. Parlons de l'époque du 14e, 15e, ça c'est une chose. Parlons de Malte au 16e, 17e. On est dans un autre cadre où aussi les rapports de force entre le monde chrétien et le monde musulman sont autres au 16e, 17e par rapport à cette situation où, curieusement, en fait, j'ai retenu un peu l'impression que finalement le monde islamique pesait beaucoup plus dans votre cadre de majeur que dans une époque plus tardive où, en fait, les musulmans sont un peu plus cantonnés, semble-t-il, dans la Méditerranée orientale. Et même s'il y avait toujours des royaumes importants au Maghreb, ils avaient peut-être un peu moins d'influence sur les îles dans le cadre de la Méditerranée. Donc, ces îles qui étaient là comme carrefour, comme point de passage, parfois comme point assez original parce que, semble-t-il, par exemple, l'expérience des Juifs dans le cadre de Majorque était différente par rapport à dans la chronologie, mais aussi dans son essence par rapport à ce qu'on entend dire normalement quand on parle de la terre ferme de la péninsule ibérique en tant que telle. Puis, on a aussi eu des réflexions portant sur l'océan Indien. Donc, et ces mers intérieures, donc prenons la mer Rouge comme faisant partie du monde de l'océan Indien, même si techniquement c'est un peu en dehors. Et alors là, on est dans un autre cadre religieux, mais aussi un autre cadre dans le sens qu'on a un autre type de rapport entre île et terre ferme. On a peut-être un peu moins l'impression de carrefour, mais il se peut aussi que ça serait en partie une illusion, étant donné le type de documentation qu'on a, sous la main. Voilà donc ces deux expériences. Puis on a eu enfin cette troisième type d'exposé qui nous mène vers la côte ouest de l'Afrique. Et là, on voit l'île comme espèce de tremplin pour des projets toujours par rapport à la terre ferme. Dans tous ces cas, donc, ces îles existent bel et bien dans le cadre d'une expérience historique. Pour revenir à mes remarques de départ, il me semble que dans un certain nombre de ces cas, il y a ce qu'on peut appeler en gros un problème d'histoire environnementale et écologique à explorer. Pas dans tous ces cas, mais certainement dans plusieurs de ces cas. Il semble que dans une grande partie de ces cas, il y a un problème de toute façon de denrées et de la survie quotidienne que se fait par le commerce parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Je me rappelle du cas le plus dramatique qu'on rencontre dans cette époque-là. C'est le cas de l'île de Djaroun. Donc de Hormuz dans le golfe Persique qui était encore plus extrême parce qu'il n'y avait même pas d'eau potable. Donc, même pour avoir l'eau potable sur l'île, il fallait normalement faire venir de l'eau de la terre ferme. Donc, vous voyez que c'est une espèce de fragilité portée vraiment à l'extrême. Dans ce cas, ce n'est pas seulement des choses à manger, mais même des choses à boire. Ce qui fait que, parmi les images qu'on a de Hormuz au XVIe siècle, il y a cette fameuse image où les gens sont en train de dîner, assis autour d'une table, mais une table qui est trempée dans l'eau. Donc on se demande pourquoi elles étaient en train de gaspiller cette eau, si c'était si cher que ça. Alors, on a commencé avec deux, trois thèmes, des grands thèmes, des thèmes des îles dans l'imaginaire. On est revenu sur ces thèmes-là. Il y avait aussi donc les îles comme ils sont compris par les géographes, mais je pense que ce qu'on a vraiment fait aujourd'hui, c'est insister beaucoup sur l'aspect économique. Sur l'aspect économique, d'un côté, l'aspect commercial, les îles et les rapports des îles avec les marchands, mais puis il y avait aussi les autres aspects économiques, comme par exemple le rapport entre un monde pastoraliste et un monde, donc, si vous voulez, d'agriculteurs, mais aussi un monde, disons, de prédation. C'est un peu comme ça qu'on peut comprendre cette histoire de Fort Dauphin au XVIIe siècle. Bien sûr, on aurait pu insister plus sur d'autres aspects. La question de l'histoire culturelle des îles, c'est aussi une grande question. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une culture insulaire en tant que telle? Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Je pense qu'en général, la réponse qu'on a eue, c'est non. En fait, il faut toujours penser à ces cultures comme des cultures en rapport avec quelque chose. Donc, il y a cette réponse qu'on a à cette phrase célèbre de John Donne, « No man is an island », et je pense à notre ami Carlo Ginzburg, qui par la suite a publié un livre qui s'appelle « No island is an island ». Voilà, donc je vais terminer avec ces quelques remarques et j'ouvre la discussion pour des remarques et des questions qui nous restent portant sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Voilà, merci.